En tout cas, ce soir, point de tourdenelle, dit Blanche.
Pour moi, cela ne fera guère de différence avec les jours précédents, répondit Philippe Daunet.
Mais j'enrage à penser que cette nuit, entre les bras de Louis de Navarre, Marguerite aura sans doute les mêmes mots.
Ah, mon ami, c'est aller trop loin, dit Jeanne, avec beaucoup de hauteur.
Tout à l'heure, vous accusiez Marguerite sans raison d'avoir d'autres amants. Maintenant, vous voudriez empêcher qu'elle ait un époux. Les faveurs qu'elle vous consent vous font trop oublier qui vous êtes. Je pense que demain, je vais conseiller à notre oncle de vous envoyer quelques mois dans son comté de Valois, où sont vos terres, pour vous mettre l'esprit en repos.
Du coup, le beau Philippe Daunet se trouva calmé.
« Oh, madame, murmura-t-il, je crois que j'en mourrai. »
Il était bien plus séduisant ainsi que dans la colère. On l'eût effrayé à plaisir rien que de voir s'abaisser les longs cils soyeux et trembler légèrement son menton blanc. Il était soudain si malheureux, si pitoyable, que les deux jeunes femmes, oubliant leur alerte, ne purent s'empêcher de sourire.
« Vous direz à votre frère Gautier que ce soir, je soupirerai bien après lui, »
dit Blanche de la plus douce façon du monde. On ne pouvait savoir si elle parlait sincèrement.
« Ne faudrait-il pas, » dit Daunet un peu hésitant, « prévenir Marguerite de ce que nous venons d'apprendre dans le cas où, pour ce soir, elle aurait prévu que Blanche en décide ?»«
Moi, je ne me charge plus de rien, » dit Jeanne.
« J'ai eu trop peur. Je ne veux plus être mêlée à vos affaires. Un jour, cela finira mal, et vraiment, c'est me compromettre à plaisir pour rien. »«
Il est vrai, » dit Blanche, « que tu ne profites guère des aubaines. »
De nos trois maris, c'est le tien qui s'absente le plus souvent, si Marguerite et moi avions cette chance.
Mais je n'en ai pas le goût, répliqua Jeanne.
Ou pas le courage, dit Blanche.
Il est vrai que, même si je le voulais, je n'ai pas ton habileté à dissimuler, ma sœur, et je suis sûr que je me trahirais tout de suite.
Ayant dit cela, Jeanne resta songeuse un instant. Non, certes, elle n'avait pas envie de tromper Philippe de Poitiers, mais elle était lasse de passer pour prude.
« Madame, lui dit Philippe, ne pourriez-vous pas me charger d'un message pour votre cousine ?»
Jeanne considéra le jeune homme de biais avec une indulgence attendrie.
« Vous ne pouvez donc plus vivre sans la belle Marguerite ? » répondit-elle.
« Allons, je vais être bonne. Je vais acheter pour Marguerite quelques pièces de parure que vous irez lui porter de ma part. Mais c'est la dernière fois. » Ils s'approchèrent d'un éventaire. Tandis que les deux jeunes femmes se consultaient, Blanche allant tout droit aux objets les plus chers, Philippe Daunet repensait à la brusque apparition du roi.
« Chaque fois qu'il me voit, il me demande mon nom. Cela fait la sixième fois, et toujours il fait allusion à mon frère. »
Il eut une lourde appréhension et se demanda pourquoi il éprouvait toujours un si vif malaise devant le souverain. À cause de son regard, sans doute, à cause de ses yeux trop grands, immobiles, et de leur étrange couleur incertaine entre le gris et le bleu pâle, pareille à celle de la glace des étangs les matins d'hiver, des yeux qu'on ne cessait de revoir pendant des heures après les avoir rencontrés. Aucun des trois jeunes gens n'avait remarqué un seigneur d'immense stature, portant des bottes rouges et qui, arrêté à mi-marche sur le grand escalier, les observait depuis un moment.
« Messire Philippe, je n'ai point assez d'argent sur moi. Voulez-vous payer ?»
C'était Jeanne qui venait de parler, tirant Philippe Daunet de ses réflexions. L'écuyer s'exécuta avec empressement. Jeanne avait choisi pour Marguerite une ceinture de velours sur laquelle étaient cousus des motifs d'argent filigranés.
« Oh, je voudrais la même !» dit Blanche.
Mais elle non plus n'avait pas d'argent, et Philippe régla également son achat. Il en était toujours ainsi lorsqu'il les accompagnait. Elle l'assurait de le rembourser, mais elles oubliaient aussitôt, et il était trop gentilhomme pour le leur rappeler.
« Prends garde, mon fils !» lui avait dit un jour « Messire Gautier Daunet le père, les femmes les plus riches sont celles qui coûtent le plus cher. »
Il en faisait la constatation à ses dépens, mais il s'en moquait. Les Daunet pouvaient se dispenser de compter. Leur domaine de Weimar et Daunet les Bondy entre Pontoise et Lusarche leur assuraient d'importants revenus. À présent, Philippe Daunet tenait son prétexte à courir vers l'hôtel de Nesle, où demeuraient le roi et la reine de Navarre de l'autre côté de l'eau. En passant par le pont Saint-Michel, il n'en avait que pour quelques minutes. Il salua les deux princesses et se dirigea vers les portes de la galerie mercière. Le seigneur aux bottes rouges le suivit du regard, un regard de chasseur. Ce seigneur était Robert d'Artois, revenu depuis quelques jours d'Angleterre. Il parut réfléchir, puis il descendit l'escalier et à son tour gagna la rue. Dehors, le bourdon de Notre-Dame s'était tu, et il régnait sur l'île de la cité un silence inhabituel, impressionnant. Que se passait-il à Notre-Dame ?